à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 43 de Trouver votre voix. Voilà, nous sommes donc le 5 septembre, ce podcast sera diffusé le 12 septembre. Nous sommes mon invité et moi à Braine-l'Alleud au parc Bourdon. C'est Tamara Meulemans aujourd'hui. Salut Tamara.
Salut Vincent.
Donc tu es la fondatrice d'Éducœur, c'est
oui.
Ça?
Oui, c'est bien ça.
Le nom de ton activité.
Oui.
Et donc, on va vous donner des mots-clés par rapport à l'activité de Tamara. Donc, ça concerne la parentalité, les parents solo.
Oui.
Et donc, c'est plutôt de l'accompagnement pour permettre aux parents d'avoir une meilleure relation avec leurs enfants, leurs ados.
Oui, une meilleure communication, une meilleure relation. Et surtout retrouver de la sérénité dans les relations entre les parents et les enfants.
Et donc là, on est vraiment comme à chaque fois, donc dans un écrin de nature, avec vraiment une communication qui se fait avec très peu d'outils. Et donc, on a parfois, comme vous l'entendez, des petits oiseaux ou le vent. À d'autres moments, on a des invités qui... Voilà, ils sont obligés d'un peu hausser la voix. Là, on va devoir un peu hausser la voix parce qu'on a improvisé, comme à beaucoup de moments, la technologie. On va un peu bouger le micro pour permettre qu'on entende davantage Tamara. Ben voilà, c'est parti des aléas du direct. Il y a quelques minutes, il y avait plein d'ados qui étaient dans ce parc où nous nous trouvons. Et donc là, maintenant, c'est tout calme.
Il y a encore quelques ados là-bas, hein. Il n'y a plus beaucoup, c'est vrai.
Après, voilà, donc il y a un train qui passe pas loin, donc vous allez peut-être l'entendre à certains moments.
Et il y a un avion qui vient de passer aussi, je ne sais pas si on l'a entendu.
Ouais, parce que c'est ça, donc pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas belges, donc Braine-l'Alleud, c'est à une trentaine de kilomètres de Bruxelles, mais on est à quelque chose comme 20 kilomètres de l'aéroport de Zaventem également, donc... La Belgique, on a la chance d'avoir plein de chouettes petits lieux de nature, mais on a aussi la chance d'avoir beaucoup de réseaux routiers, aériens. Puis ça fait partie de cette dynamique de podcast, donc en une prise dans la nature. Donc, ton activité, Tamara, tu as des actualités en ce moment, par exemple?
Alors, oui, plein d'activités. Plein d'actualités. Non, mais la principale, c'est que j'organise chaque semaine un webinaire pour les parents, un webinaire qui est offert et j'y apporte des outils totalement gratuitement pour aider les parents à mieux gérer les relations avec leurs enfants, à comprendre pourquoi ils s'énervent, qu'est-ce qui vient les challenger et à leur apprendre aussi à déculpabiliser par rapport à la parentalité et au fait qu'ils s'énervent, etc. Et donc, là, pour le moment, ce sera tous les lundis. Sauf lundi prochain, du coup, le 12, il n'y aura pas de webinaire. Mais là, du coup, tous les lundis, il y aura un webinaire.
Et donc, ouais, nous avons des ados qui jouent dans la nature avec ce qui ressemble à... un frisbee.
Oui, c'est ça. Il y a, en fait, ici dans ce parc, c'est très exceptionnel. Il y a un parcours de sportif pour les frisbees. Je ne sais plus comment s'appelle ce sport, mais en gros, il y a un goal, tu vois, et ils jettent le frisbee dans le goal. Là, c'est ce qu'il vient de faire, et d'où le petit bruit. On a entendu. Il a l'air de bien maîtriser. Hein.
Et donc c'est ça, nous sommes pas loin donc, de Waterloo, où j'avais fait un épisode avec Kostia, que tu connais également.
Oui.
Ça avait été un épisode assez particulier, parce qu'il y a eu beaucoup de perturbations sonores avec des gens qui étaient passés, avec un jardinier. Et donc voilà, est-ce que c'est les environs qui font qu'à chaque fois on a une ambiance sonore avec beaucoup de passants?
Non, je pense pas. Là.
Parce que c'est ça, parce qu'il bouge, mais il y a un autre lieu à frisbee juste derrière nous.
Oui, j'espère qu'il va pas venir juste là.
C'est ça, parce que vous verrez donc les photos comme d'habitude par rapport à la dynamique de ce podcast. Donc je mets les photos du lieu sur Facebook. Il est aussi diffusé sur. Le lien est aussi mis sur LinkedIn. Donc ça va être l'occasion de voir donc, ton activité donc, existe depuis combien de temps?
Alors, ça fait un an et demi que mon activité a été lancée. Et je dirais que je m'y investis vraiment depuis ben, un peu plus d'un an. Ouais.
C'est ça, on s'était beaucoup vu soit en Zoom, soit sur des événements, mais
Oui.
en coup de vent, parce qu'il y avait beaucoup de gens à ces événements, soit on venait d'autres événements et on avait combiné. Et donc ça a été l'occasion. Ah, parce que tu connais un certain nombre de personnes de certains cercles entrepreneuriaux, vu qu'on a ces personnes-là en commun, forcément.
Oui, tout à fait.
Donc on ne va pas rementionner les nombreux cercles.
Non, parce qu'il y en a beaucoup.
C'est ça, de nombreux cercles qu'on a en commun. Et c'est aussi ça, tu me parlais aussi, donc avant qu'on commence ce podcast, du fait que tu fais souvent des séminaires, donc ça te permet vraiment de rencontrer beaucoup de personnes, ou
Oui.
d'avoir ce contact avec deux entrepreneurs pour justement pouvoir parler entrepreneuriat, pouvoir sortir la tête du guidon aussi à certains moments.
Oui, je participe régulièrement aux séminaires, et pas que pour sortir la tête du guidon, mais aussi pour apprendre de nouvelles choses, pour reprendre du recul aussi par rapport à moi-même, parce que les événements auxquels je participe sont souvent des événements de développement personnel, même si c'est lié au business, principalement au business. Il y a quand même toujours des nouvelles choses que j'apprends, ou une nouvelle manière de dire les mêmes choses en fait, et ça me reconnecte à tout ça, ça me fait un petit peu un reset de ce que je savais déjà. Là, ce week-end, j'étais à Paris à l'événement du NBS Life. NBS, c'est la Neuro Business School, avec Yannick Alain et David Lefrançois. Et c'était vraiment très chouette. Puis ça permet de remettre aussi en énergie et puis de rencontrer plein de gens. Voilà.
Ah, c'est ça. Et donc, d'autres séminaires, d'autres lectures, d'autres influences que tu as qui ont fait l'entrepreneur que tu es ou qui justement font partie de ta méthode dans ton activité.
Alors oui, Max Piccinini notamment, avec qui j'ai été formée en coaching d'excellence. Et je vais à son séminaire qui aura lieu là fin du mois. Donc je retournerai à Paris pour 3 jours. Et là, c'est pas juste les entrepreneurs, ça c'est un petit peu ouvert à tout le monde. Et là, de nouveau, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de nouvelles manières de dire certaines choses que je connais déjà. C'est comme des révisions, en fait. Max, il aime bien dire que la répétition est la mère de la maîtrise. Et je suis bien d'accord avec ça. Et donc, de se faire répéter les mêmes choses, de noter les mêmes choses, etc. Au bout d'un moment, ça rentre. Et ça te permet de prendre du recul sur des situations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles.
C'est ça, donc dans l'épisode 31, donc, Sylvie Brakmansky, qui a créé Lilou Square, avait parlé justement aussi de Max, parce qu'elle est aussi coachée par lui, beaucoup d'autres personnes. Donc il y a souvent des noms de mentors qui se répètent. Dans ce podcast à force, voilà, parce que nous sommes donc dans l'épisode 43. Et donc, c'est ça aussi, en termes d'influence, de se dire voilà, qu'en tant qu'entrepreneur, on a plein de moments où, comme tu le disais, comme Max le dit, justement, c'est important de pouvoir se répéter des choses, ou de pouvoir voir les choses différemment. Parce que voilà, il y a plein de moments où tu as une dynamique aussi, où je me dis, mais moi je suis admiratif en fait. J'invite des personnes que je trouve inspirantes dans ce podcast. Je suis admiratif en me disant, voilà, c'est donc une maman solo, comment elle fait pour faire autant d'activités, comment elle s'organise. Et donc oui, et donc forcément, ce sont les conseils que tu donnes aux personnes avec lesquelles tu travailles.
Oui, exactement. Juste, il y avait la petite info, c'est que Sylvie, justement, je l'ai rencontrée l'année dernière au séminaire où je vais me rendre là, de Max Piccinini. Donc je sais que c'est elle parce que je l'ai rencontrée, je lui ai parlé vite fait. Parce qu'elle était déguisée en lutin de Père Noël, etc. Donc j'ai trouvé ça fun. On avait discuté genre 5-10 minutes, mais du coup, je vois tout à fait qui c'est. C'était pour la petite parenthèse. Et oui, en fait, effectivement, ça demande une certaine organisation de pouvoir participer à ce genre d'événement. Et dans les accompagnements que je donne, je travaille notamment sur le pilier de la communication qu'on peut avoir avec son ex et des bénéfices que ça peut avoir de bien s'entendre avec son ex. On ne le fait pas pour lui, on le fait pour nous et pour nos enfants. Et moi, au début, avec mon ex, c'était hyper compliqué. On se mettait des bâtons dans les roues l'un et l'autre et on se parlait mal. Et en fait, nos enfants en souffraient, même si elles ne le montraient pas. Elles sentaient cette énergie, tu sais. Tu reçois un message de ton ex, ça t'énerve, elles le sentent. Et donc, ça participe à cette sérénité que tu veux avoir en tant que parent solo, c'est de pouvoir communiquer correctement avec son ex. Donc, j'ai fait tout un travail sur moi aussi par rapport à ça. Et actuellement, je peux dire qu'on communique vraiment bien tous les deux. Et c'est grâce à lui et grâce au fait qu'on communique bien ensemble que je peux me rendre à ce genre de séminaire parce qu'il est très souple sur les gardes des enfants. On fait vraiment sincèrement là l'horaire, le planning de garde par rapport à mes séminaires. Lui, s'il me demande un truc, je vais toujours aller dans son sens aussi, et lui et moi de mon côté, si je demande un truc, il va aller dans mon sens. Ça va dans les deux sens, quoi. Tu vois, pour les vacances, il m'a demandé, il m'a dit voilà, j'aimerais les avoir en août pendant 2 semaines, même un peu plus. Eh bien, j'ai accepté facilement ce que j'aurais pas fait avant parce que il m'aurait fait chier ou quoi. Bah là, non. On s'aide en fait mutuellement à pouvoir être cool.
C'est tout un travail sur soi, j'ai l'impression déjà de pouvoir communiquer ses propres émotions, accepter celles de la personne en face. Déjà, quand on est en couple, qu'on se sépare avec quelqu'un et qu'il n'y a pas d'enfant, voilà, donc, moi je suis beaucoup dans de la communication non violente, forcément Marshall Rosenberg, Thomas d'Ensemble. C'est déjà bien de pouvoir avoir lu les bouquins, avoir suivi des séminaires de ces personnes-là. Et après, c'est comme dans tout dans la vie. Soit on applique, mais on retombe quand même à un certain moment dans les travers, soit on est face à des personnes qui voilà, sont pas au même niveau ou qui n'ont ne ressentent pas le besoin de faire cet effort donc de communication. Et donc, c'est aussi ça. Moi, j'accompagne plus des personnes qui ont décidé de mettre en place plein d'outils de communication, voilà, que ce soit un podcast ou soit un crowdfunding par rapport à leur activité. Et je suis de plus en plus aussi à me dire, tiens, mais je mets aussi du développement personnel dans mes accompagnements parce que je me rends compte que quand j'ai un homme qui n'a pas d'enfant face à moi, qui donc a plus de marge de manœuvre pour communiquer par rapport à son activité, mais qui n'ose pas, donc c'est certaines blessures, certaines peurs de son côté, par exemple la procrastination, c'est encore différent que quand tu as une maman qui n'a pas d'aide pour pouvoir être accompagnée dans toutes ces démarches. Et donc elle se dit, bah, c'est tôt le matin ou tard le soir, quand j'ai fini ma carrière de parent, en fait. Et ça, donc c'est encore tout à fait une autre dynamique. Et c'est en effet tout ça, ouais, où on ne prend pas forcément toujours le recul en disant, bah, les personnes vont parvenir à s'adapter. Non, chacun s'adapte à son rythme, chacun vit ce qu'il a à vivre. Donc comme tu le disais, voilà, c'est bien quand les gens se disent, bah, pour mon bonheur personnel, mais aussi quand il y a des enfants, pour que mes enfants soient les plus épanouis possibles, trouvons une solution. Après, voilà, c'est pour mettre de l'eau dans son vin des deux côtés.
Ouais.
Donc, c'est vraiment ça la dynamique. Et j'imagine que c'est aussi parmi tous les conseils que tu donnes dans tes accompagnements,
Ouais.
disons, genre, ah, ben voilà, donc il n'y a pas.
J'ai un super exemple, c'est une des personnes que j'ai accompagnée cette année qui me disait, enfin, qui a fait un témoignage en fait lors d'un webinaire et qui disait, ce mec, en parlant de son ex, il m'a fait les pires crasses. Elle a vécu l'enfer avec lui, Mais malgré tout, elle essaye de pas dire de mal de lui devant les enfants parce que ça reste le père de ses enfants, etc. Et elle ne parvenait pas à lui parler gentiment. Beaucoup de rancœur, beaucoup de haine, en fait, vis-à-vis de cet homme. Et du coup, en fait, ça se passait super mal entre eux parce que bah, les mails, ils ne se parlaient que par mail, déjà, que par mail interposé. Et c'était très, très sec, en fait, dans les mails. Et suite à un coaching, une séance individuelle que j'ai eue avec elle, on s'est dit, ok, bah, en fait, là, on va lui envoyer un mail un peu plus positif, avec des trucs. Tu sais, le but, c'est pas de devenir amie avec l'ex. C'est vraiment juste, tu vas lui parler exactement comme tu aimerais qu'il te parle. Et donc, quand tu écris le mail, c'est comme si tu parlais à toi. Et donc, c'est vraiment ce que je l'ai invité à faire. Et on a écrit ce mail ensemble, parce qu'elle voulait que je l'aide. Vraiment, elle n'y arrivait pas. C'était vraiment une sortie de zone de confort pour elle. Elle n'y arrivait pas, donc on a écrit le mail ensemble. Elle me l'a fait réviser. Je lui ai fait mon feedback, etc. On a changé deux, trois trucs. Et puis, elle en a écrit un deuxième. Et en fait, très vite, elle s'est rendue compte qu'il changeait, lui, sa manière d'être avec elle. Que lui, dans ses mails, il était plus sympa. Qu'il lui posait des questions comme « Est-ce que tu veux avoir les enfants pour telle fête ?» Alors qu'avant, jamais, il aurait essayé ça. Et tu vois, elle, ça l'a sortie vraiment de sa zone de confort et elle s'est dit « Mais qu'est-ce qu'il va me faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il veut, en fait ? C'est quoi le but ?» En fait, non. C'est juste, tu lui as envoyé des trucs positifs. Ça a apaisé, en fait. Et grâce à ton pouvoir de sérénité, de bienveillance, d'amour, tu as pu récupérer ça, en fait. C'est le fruit de ton travail que tu récupères, finalement. C'est tout bénef. Pour les enfants et pour elle. Et même pour l'ex, en fait. Finalement, y a, du coup, dans tout ça, dans ce cercle-là, ben, il n'y a que des bénéfices.
Vraiment, ça, c'est l'idée de changer parfois certaines choses. Ah, ça prend le temps que ça prend, mais c'est en effet l'état d'esprit. Et qu'en effet, quand on est dans de la rancœur par rapport à des choses qui se sont passées, on va continuer à les garder. Et c'est vraiment ça aussi l'idée. Voilà, je suis aussi dans cette dynamique-là. Il y a plein de moments où je me dis « Aouh !» J'ai pas voulu formuler ça de telle manière. En fait, c'est perçu comme un jugement, comme une critique, alors que moi, je me disais juste « Tiens, mais la personne en face de moi, je perçois telle chose au niveau de son émotion, je perçois tel potentiel. » Et donc, moi, je me disais juste « Mais elle mérite de davantage te faire confiance. » Elle a certes vécu telle et telle chose complexe en tel moment de sa vie. C'est dommage que ça lui prenne encore autant d'énergie aujourd'hui. Et donc c'est ça. Et quand les gens n'ont pas l'habitude des encouragements, n'ont pas l'habitude... Il y a plusieurs langages de l'amour. Il y a plein de choses. Tu dis. Et, donc et moi aussi, il y a plein de choses. Je me suis dit, mais il y a X années, je n'étais pas non plus à ce niveau-là. Et donc oui, donc parfois, comme tu le disais, voilà, c'est, tu poses une question et la personne ne s'attend pas. De un, à ce qu'il y ait une question, de deux, à ce qu'elle soit tournée positivement. C'est ça aussi, quoi. Si tu vas poser la question en disant juste à la personne, j'aimerais juste savoir comment tu vas, plutôt que de partir du constat, elle va mal, donc je vais soit rien lui dire, soit juste lui dire. Mais tant que tu n'auras pas réglé ça, je ne te parle plus. Que les personnes le prennent différemment quand en effet tu montres un peu d'attention, quand en effet tu te dis, bon, si je continue avec ce mode de communication, même si je n'ai pas l'impression d'être agressif dans ma manière de communiquer, mais qu'en effet, la personne en face... Ça, moi, parfois, je m'enregistrais et me disais, ah oui, ok. Et donc, ouais, donc, tu t'entends, tu t'écoutes, et donc, c'est aussi important donc, au niveau des parcours de vie, parce que ce podcast concerne les parcours de vie, de se dire, il n'y a rien qui est figé dans le marbre. Il y a plein de choses qu'on a pu vivre, et ça dépend de nous de pouvoir avoir cette envie, à certains moments, de le changer. Parce qu'en disant... ça me bouffe beaucoup d'énergie et en fait, ça ne me prendrait pas plus de temps et plus d'énergie de changer cette dynamique et donc de la rendre un peu plus positive.
Bien au contraire, en fait. Ça, peut-être au début, ça te demande un petit peu plus d'énergie, tu sais, mais vraiment pas grand-chose. Ça se joue à des millimètres. Mais au final, les fruits que tu récoltes, ils sont tellement bons que tu ne peux que aller vers cette option-là. Et en fait, c'est ce que j'explique aux parents. C'est que Je suis rarement dans le conseil. Ça m'arrive d'être un petit peu dans le conseil parce que bah, forcément, j'ai des outils que les parents n'ont pas, de par mon passé, de par bah, tous les livres que j'ai lus, de par le fait d'avoir expérimenté dans des classes pendant 14 ans. Forcément, j'ai un bagage derrière et donc j'ai quand même une posture où je suis légitime à pouvoir donner de temps en temps des conseils. Mais j'essaye vraiment d'amener la personne à plus se questionner plutôt que moi donner des conseils. Déjà, c'est une chose. Donc, les personnes sentent vraiment que je ne suis pas dans le jugement puisque je ne suis pas là occupée à dire tu dois faire ça, ça, ça et ça. C'est pas comme ça que je fonctionne. Je remets en question leur mode de pensée, leur mode d'action. Et c'est en remettant en question ça qu'elles se disent bah oui, en fait, c'est un mode de merde. et qu'elles se disent bah oui, bah, j'ai envie de changer, etc. Et quand on discute des stratégies, bah, là, je peux amener certaines stratégies que tu peux mettre en place. Après, je voulais en venir en fait. De base, j'étais pas du tout partie là-dessus, mais mes pensées sont allées par là.
C'est un podcast très improvisé. Donc, ça fait vraiment ça. Donc, moi, il y a des gens qui me disent souvent, mais on comprend pourquoi tu prends cet exemple qui est lié à ton passé ou à telle personne que tu as accompagnée ou tel ami que tu as aidé à tel moment. Et d'autres personnes qui me disent, mais il y a beaucoup trop d'exemples, pourquoi tu nous laisses ça? Donc c'est ça, ça, chacun a son parcours. Parfois tu te dis, tiens, mais ouais, je trouvais ça intéressant de prendre cet exemple-là, de prendre cette métaphore. Après, c'est ça, tu peux utiliser plein de métaphores aussi. Bah, chacun a ses chaussures, et donc tu peux passer ta paire de chaussures à quelqu'un d'autre. La personne ne va pas rentrer, même si elle a la même pointure dans tes chaussures, parce qu'elle va se dire, ah oui, j'ai testé la paire de chaussures, et puis là, ah, la semelle est trop dure pour moi, ah, il y a un petit caillou dedans. Mais au départ, voilà, c'est juste le fait de se dire, tiens, il y a peut-être des similitudes, et donc c'est pour ça que j'aiguille la personne à aller plutôt, enfin, à essayer telle et telle chose, parce que moi, ça m'a servi. Moi, j'essaie aussi d'expliquer aux gens, voilà, j'ai l'impression que ça pourrait être utile pour toi, pour vous. Et après, voilà, c'est le but, c'est de le tester et de revenir avec un retour en disant, ah oui, en effet, ça m'a servi. Ou, tiens, je vois pourquoi tu m'as donné ce conseil, pourquoi tu m'as proposé d'essayer ça, mais au final, c'est pas pour moi, c'est pas le bon moment, ou je pense que j'ai d'autres étapes à faire avant, donc il y a aussi tout ça. Et ouais, donc il y a plein de choses où voilà, c'est juste le fait de se dire, un peu comme ici dans la nature, prendre son temps. Parce qu'en effet, donc pour revenir sur le nom de ce podcast, pour trouver sa voix, V-O-I-X, ah, il y a plein de chemins tortueux. Jamais, la vie n'est jamais une ligne droite en fait. Et donc c'est, en termes d'apprentissage, c'est le rythme de chacun varie. Donc c'est aussi ça, à plein de moments. Comment ça se fait que ça a été aussi vite? Donc, parfois, et parfois, tu es juste dans de l'énergie. Parce que tu passes un chouette moment et tu ah, je voulais pas imposer mon rythme à la personne.
Moi aussi, tu vois, quand tu dis trouver sa voix, etc. Pour moi, ça a été très compliqué quand je suis sortie de l'école secondaire, donc s'il y a des Français qui nous écoutent du lycée, de savoir ce que je voulais faire exactement. Moi, je voulais être comédienne, je voulais faire du théâtre, etc. Et j'ai fait d'ailleurs des études de théâtre en secondaire, donc à l'école collège-lycée. Et je voulais continuer là-dedans, mais je ne savais pas quel métier exactement je voulais exercer. Et ouais, ça a été vraiment très difficile. Et puis on me faisait passer, tu sais, ces espèces de petits bilans de compétences un peu, tu vois. Qu'est-ce que t'aimes, machin. Et en fait, on m'a dirigée vers le secrétariat. Ce qui n'est absolument pas du tout un domaine que je kiffe. C'est assez drôle parce qu'en fait, si tu veux, ils m'ont dirigée là-dedans parce que je suis quelqu'un qui est hyper débrouillarde. Moi, quand on a reçu le PC à la maison pour la première fois, je crois que j'avais genre 14-15 ans. C'était un IBM, tu sais, et il fallait installer le programme, etc. Et on n'y connaissait absolument rien. Et je me souviens que ma mère m'avait dit on verra comment on peut faire, on va appeler quelqu'un, etc. Moi, je me suis dit que j'allais le faire toute seule. Et je l'ai fait toute seule. J'ai tout installé toute seule. Du haut de mes 14-15 ans, j'ai absolument tout appris toute seule sur ce PC. Je passais des heures à juste apprendre comment ça fonctionnait. Et du coup, j'étais genre faite pour être secrétaire. Pas du tout. Je ne suis pas faite pour être secrétaire. Absolument pas. C'est pas du tout mon kiff. Mais c'est marrant qu'on m'ait dirigée là-dedans. Et puis, donc pendant cette fameuse année de secrétariat où j'ai détesté, clairement, où d'ailleurs ma mère était en grosse, grosse dépression, et du coup j'ai pu prendre le temps de pouvoir aller la voir souvent à l'hôpital psychiatrique, hein, parce qu'elle a été souvent hospitalisée, je me suis remise en question et je me suis dit, bon, okay, qu'est-ce que je pourrais faire qui me connecte à ce truc de théâtre, à cette envie que j'avais de rester avec les enfants, parce que les enfants, c'est ce qui me dynamise énormément. Et que moi, mon but dans la vie, c'était pas du tout d'avoir un métier, etc. Moi, je voulais juste être maman. C'était assez simple. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est d'être maman. J'étais déjà en couple avec le papa de mes enfants à ce moment-là. Et j'avais des potes de théâtre qui avaient choisi cette voie de l'enseignement. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une bonne idée d'aller vers l'enseignement, parce que ça répondait un peu à mes besoins. Et donc, je me suis inscrite l'année suivante et j'ai fait mes 3 ans d'école normale, donc d'école d'enseignante, pour ensuite devenir prof en primaire. J'ai kiffé hein, mes années. J'ai kiffé, mais ce que je kiffais le plus d'ailleurs, c'était pas le fait d'enseigner, de leur apprendre des choses. Ce que je kiffais le plus, c'était de les voir apprendre par eux-mêmes. Ça, c'était kiffant. De voir comment ils pouvaient évoluer juste en posant des questions, en étant les uns avec les autres, en étant curieux. Ce qu'on m'avait dit qu'on ne pouvait pas faire d'ailleurs quand j'étais petite. T'as pas le droit d'être curieux, c'est pas bien. La curiosité est un vilain défaut, soi-disant. Lol. La curiosité, c'est une super bonne qualité. Enfin, je pense que tous les traits de caractère ont des côtés positifs et négatifs. On m'avait toujours dit la curiosité est un vilain défaut. Ben non, en fait. Je trouve qu'il faut inciter les enfants à être curieux, à s'intéresser à tout et à participer à cette curiosité. Et oui, il faut mettre des limites, mais il faut arrêter de leur dire que c'est un vilain défaut. Moi, si j'étais pas curieuse, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Si j'étais pas curieuse, d'ailleurs, je serais pas coach. Parce que ça me sert aujourd'hui. Être curieuse, ça me sert dans mon job d'aujourd'hui, en fait. Et ça m'a servi dans mon job d'hier aussi. Si j'étais pas curieuse, j'aurais pas pu être prof.
Ah, c'est sortir de sa zone de confort à plein de moments. Ah, c'est la première chose que tu dis, ouh, ça me fait peur. Mmh. Après, oui, c'est te dire, je fais ça étape par étape, pas un pas après l'autre, pour vraiment changer certaines choses, parce que là, si je continue comme ça, d'un, je ne serai pas heureux pour moi. Et puis quand tes parents, quand tu as plein de personnes autour de toi, voilà, tu ne sais pas jouer éternellement un rôle, ça a d'office se voir au niveau des émotions, que tu as passé une mauvaise journée. Mmh. C'est ça, et puis à plein de moments, tu dis, bon ben. Moi, j'ai déjà ça. Je sais maintenant identifier mes émotions et je me dis, bon, moi, j'ai juste un chat. Si je m'énerve en rentrant chez moi, qui va prendre ma mauvaise humeur. Mm-hmm. Et donc, j'ai ça avec plein d'amis qui sont parents ou qui ont des activités qui sont encore plus stressantes. J'ai dans l'œil, je me dis, mais directement, c'est le compagnon, la compagne, les enfants qui prennent. Parce qu'ils n'arrivent pas à prendre une distance, ils ont toujours fonctionné comme ça, ils ont vu leurs parents, leurs grands-parents fonctionner, et donc tu as beaucoup de familles où il n'y a aucune réflexion, ni sur la curiosité, ni sur les comportements qu'ils ont, ils se disent, on a toujours fait comme ça.
C'est ça, on a toujours fait comme ça, c'est la phrase qui tue, c'est la phrase de merde. J'ai dit 2 fois merde dans le podcast jusqu'à présent, hein. Je dis souvent des gros mots d'ailleurs, parce que je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face. Tout le monde dit des gros mots, et quand on dit aux enfants « ne dis pas de gros mots », alors qu'en fait, en vrai, nous on en dit, ils sont pas bêtes les enfants, ils savent qu'on en dit, et ils en disent aussi. Il n'y a personne, je pense, sur cette terre, sur cette planète qui n'a jamais dit de gros mots. Il faut assumer aussi qui en est. Donc, je suis une grande diseuse de gros mots. Et oui, ça me choque quand mes enfants le répètent, mais voilà, en fait, c'est OK. Et elles savent qu'elles ne doivent pas en dire quand elles sont à l'école et des trucs comme ça, mais les empêcher tout le temps d'en dire, c'est un peu faux cul, en fait, en vrai.
Après, c'est savoir à quel moment tu dis des gros mots. Oui. Moi, je sais que quand je suis en voiture, je bats des records.
Exactement.
Des gros mots, mais 9 fois sur 10, soit je suis tout seul, soit je suis avec des gens qui me connaissent, donc on fait du covoiturage. Donc forcément, ça arrive. À chaque fois, je me dis, oh, j'aimerais bien un jour encore être parent. Et je devrais me dire, bon, soit en voiture, ça s'entendra beaucoup. C'est ça, et donc c'est juste être soi-même, et donc savoir qu'à tel et tel moment, soit tu te mets une limite, tu te dis, mais ça m'énerve pour moi. Donc oui, le fait de changer des choses pour nous. Et donc, je vais juste regarder le timing.
Il y a, dans l'éducation, en fait, ce qu'on dit, et ça a été pas mal répété ce week-end d'ailleurs, et j'ai trouvé ça vraiment magique. Enfin, c'est exactement ce que je répète régulièrement. C'est que l'éducation, c'est de la modélisation. C'est-à-dire que si tu veux que ton enfant se comporte d'une certaine manière, il ne s'agit pas de lui dire de se comporter de cette manière. Il s'agit d'incarner cette personne qu'on souhaite qu'il soit.
Ah, c'est plus le montrer.
C'est ça.
Ça, oui, ça va être
le montrer, l'incarner, le modéliser en fait. Le parent, c'est vraiment le modèle éducatif. C'est le modèle. Et l'enfant, quoi qu'on en dise, il copie le modèle. C'est sa manière d'être éduqué, c'est de copier le modèle parental. Moi, quand je suis devenue maman, j'avais toujours dit, je ne veux pas ressembler à ma mère. Dans le sens où ma mère, c'est quand même quelqu'un qui pétait des câbles régulièrement. C'était maman dragon, c'était maman qui hurlait sur nous. Donc nous, mes sœurs et moi, parce que j'ai deux sœurs, qui nous frappaient violemment quand même. Parce qu'elle ne maîtrisait pas ses émotions, etc. Et j'avais toujours dit, moi, je veux des enfants. Et en fait, au départ, je ne voulais pas des enfants pour une bonne chose. Hein. Maintenant, c'est top que je les ai eus et j'ai appris beaucoup de choses. Mais au départ, moi, je voulais des enfants pour réparer l'éducation que j'avais eue. Et donc, j'ai tout fait pour ne pas ressembler à ma mère. Et en fait, je le dis souvent dans les webinaires, je me suis rendu compte que j'étais comme elle, sauf que je ne l'acceptais pas. Et un jour, moi, quand je suis devenue enceinte, je criais énormément au début. Hein. Je ne savais pas comment maîtriser mes émotions, etc. Et je l'ai fait aussi sur ma fille, sur ma grande qui va avoir 14 ans, là, dans un mois. J'ai crié sur elle et elle m'a regardée avec des yeux où tu voyais la peur, en fait. Tu voyais qu'elle était en panique. Et je me suis dit, mais c'est pas juste en fait. C'est pas juste ce que je suis occupée à faire pour elle. Et c'est pas ce que je veux, moi, dans la relation avec mon enfant. Moi, ce que je veux, c'est que ma fille, elle puisse tout me dire. Je suis pas sa copine, mais je peux être sa confidente. Et je veux qu'à l'adolescence, si elle a un petit ami, elle puisse me dire ce qui se passe pour elle, comment elle se sent. Qu'elle puisse me dire si elle se fait harceler, parce que moi je me suis fait harceler à l'école et j'en ai jamais parlé à ma mère. Quand j'étais plus jeune, j'en ai pas parlé, je lui en ai parlé plus tard, mais sur le moment, je me suis même pas spécialement rendu compte que c'était du harcèlement, tu vois. Mais je me suis quand même bien fait harceler à l'école et je crois que j'aurais voulu pouvoir le dire à ma mère, pouvoir me confier à elle. Et je me suis rendu compte qu'en me comportant comme ça, je faisais tout l'inverse de ce que je voulais faire. C'est ce qui m'a aussi permis de changer, de devenir la personne que je suis aujourd'hui. C'est, je ne veux pas reproduire, mais je n'ai pas les outils. Et comment est-ce que tu peux faire en n'ayant pas les outils? C'est en étudiant, en te renseignant. Qu'est-ce que c'est l'éducation positive? Qu'est-ce que ça apporte? Et tu testes, et tu te plantes, et tu retestes, et tu te plantes encore, et puis tu retestes encore. Et puis là, il commence à y avoir des résultats, et t'évolues et tu te fais accompagner. Enfin, moi, j'ai fait des années de psy, j'ai fait de l'hypnose, j'ai tout testé, en fait. tout ce qui est possible, j'ai tout testé. Et je suis encore en travail. Parce qu'on est, on n'est jamais vraiment parfait et je pense qu'on a tous besoin d'être accompagnés.
Ah, c'est ça. Développement personnel, même si on l'appelle d'une autre manière, ça dure toute la vie. Ah, si on passe d'un extrême à un autre en termes d'émotion à certains moments. Ah, c'est. Moi, j'explique à certaines personnes qui me connaissent depuis peu de temps que t'es quelqu'un de très timide, très observateur en tout un temps. Et ils me voient juste comme quelqu'un de dynamique. À certains moments, ils me voient comme quelqu'un qui essaie toujours de les faire rire aussi. Ou à d'autres moments, en disant, mais. Ah bon, pour une fois, tu ne parles pas. D'habitude, on ne sait pas en placer une. C'est ça. Donc, à chaque fois, si tu fais bouger ton curseur par rapport à ton énergie du jour, par rapport à certaines choses que la journée réveille, s'il y a une date anniversaire, je sais qu'il y a des périodes où j'ai besoin de plus m'exprimer parce que garder l'émotion, ça fait écho à qui j'étais il y a quelques années. Donc, je gardais, j'explosais pour de mauvaises raisons. Ouais, c'est ça. Donc, c'est. Avoir conscience de certaines choses et voir aussi l'évolution. Ah tiens, mais telle émotion, je l'ai déjà connue il y a autant de temps. La manière de l'exprimer ne me convenait pas à telle époque, donc j'ai tout à fait changé. Et là, maintenant, cette limite à 180 degrés. Et donc, les gens qui ont suivi ton évolution comprennent pourquoi de telles situations où tu disais absolument rien, tu as voulu faire tout l'inverse. Et puis, à chaque fois, ils te disent, allez, ça, c'est un peu too much comme émotion pour moi. Ton ancienne émotion l'était aussi. Ouais, donc, et à des moments où tu es, par rapport à leur personnalité, par rapport à leur vécu de vie, plus aligné, donc c'est plus facile pour eux d'accepter cette émotion aussi. Là, tu as plein de moments où moi je me dis, mais comment ça se fait que je suis aussi impatient? Là où il y a 2-3 ans de ça, j'étais beaucoup plus diplomate. Donc c'est à chaque fois ça, c'est se dire, ouais, à l'heure actuelle, je suis avec telle émotion aujourd'hui, ou dans 1 heure, je serai avec une autre émotion aussi. Ça, moi je vais passer la soirée avec une amie que j'ai pas vue depuis un petit mois. Ah, mais elle est d'un calme pas possible. Elle relativise énormément de choses. Et on va aller voir des potes humoristes. Et donc, c'est vraiment ça, c'est le fait de se dire, tiens, mais je sais forcément que mon énergie, je peux la promener dans une journée. Donc, si j'étais quelqu'un de très émotif, je vais peut-être amener cette émotion très plus émotive vers d'autres personnes. Ça, donc, je prends aussi plus des moments pour respirer entre plusieurs rendez-vous aussi. Ça fait partie de tous les apprentissages de vie, c'est un peu ça, tous les parcours qu'on peut connaître dans nos vies, de se dire, tiens, ah, j'ai pas apprécié ce que j'ai vécu hier à tel et tel moment, donc ça, je vais plutôt le mettre de côté pour partir avec une autre énergie aujourd'hui. Ou à l'inverse, hier, j'ai pas finalisé telle chose, j'ai vraiment envie aujourd'hui de le faire. Ah, c'est se connaître, c'est avoir envie aussi. Il y a plein de moments où vous êtes, j'évolue.
Ouais. Il y a aussi une chose que je voudrais souligner, c'est que on maîtrise pas toujours tout. C'est-à-dire que il y a énormément de choses qu'on fait de manière automatique et inconsciente. Quand on est face à une nouvelle expérience, en fait, il y a ce qui s'appelle un chemin neuronal qui se fait dans le cerveau. Donc, forcément, chemin neuronal dans le cerveau, les neurones qui se connectent. Et donc, justement, ils en parlaient ce week-end et j'ai trouvé ça assez bien la manière dont ils l'expliquaient. C'est que tu es face à une situation, tu vas réagir d'une certaine manière, tes neurones vont enregistrer la manière dont tu réagis. La fois suivante, quand tu te retrouves devant cette situation, tu vas réagir de la même manière. C'est-à-dire que des parents qui vont s'énerver sur leurs enfants, tu vas voir que certains parents vont s'énerver pour certaines choses et d'autres parents vont s'énerver pour d'autres choses. Rien à voir en fait. Et tu te dis, mais en fait, tous les parents crient, etc. Bah, potentiellement oui, mais pas pour les mêmes choses. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'une personne peut supporter certaines choses et pas d'autres? Tu vois, c'est bizarre. Ben, l'explication, c'est que, en fait, face à une expérience, ils éprouvent certaines émotions, dites entre guillemets négatives. Et quand ils se retrouvent de nouveau face à cette expérience-là, ils répètent un câble. Et tant que le chemin, il est comme ça, et que le parent, il n'est pas conscient de ça, il va se reproduire systématiquement. Quand tu mets le doigt dessus, le schéma, ben, tu vois, tu fais à ton cerveau, mais en fait, t'es con, quoi. On s'en fout. tu lui apprends ça, tu dis à ton cerveau, mais gars, t'as pas besoin de réagir comme ça en fait. C'est pas ça, moi j'ai pas envie de ça. Tu le jettes à la poubelle, tu déconstruis le schéma, hein, et t'en remets un nouveau. Et tu refais, tu rééduques en fait ton cerveau à, en fait c'est une expérience positive ça. Vas-y, voilà ce que t'as besoin de connecter à, t'as besoin de connecter à telle et telle émotion. Donc c'est ce qu'on fait dans les accompagnements individuels. C'est vraiment, devant telle situation tu t'énerves, ok, ben en fait devant telle situation, voilà comment ça peut se passer. Voilà l'expérience que tu peux vivre. On rééduque ce cerveau, on fait un nouveau chemin neuronal. Et c'est comme ça que les situations changent, et c'est comme ça que j'ai une cliente qui me disait, qui doit faire un exercice et m'envoyait tous les jours un petit peu le feedback de sa journée, et qui me disait hier, c'est magique ce qui se passe avec ma fille en ce moment. Ça fait même pas un mois qu'elle a commencé ici, ça fait un mois. Là, ça fait un mois. Elle a commencé il y a un mois, elle me dit c'est magique. Moi, je kiffe. Pourquoi ? Parce que ben, on est occupé à déconstruire ces fameux chemins neuronaux, parce que il y a plein de choses qu'elle a déjà commencé à déconstruire, et parce qu'elle est occupée à vraiment reconstruire sa relation avec sa fille, à reconnecter à l'amour inconditionnel qu'elle a pour elle, ce qu'elle s'empêchait de ressentir en fait parce que c'était trop douloureux à un moment donné, parce qu'elle souffrait en fait. Et voilà, c'est comme ça qu'on modélise aussi nos parents. C'est que quand on voit l'expérience de nos parents, ben en fait, on se fait aussi un chemin neuronal, on voit comment ça se passe pour eux, et en fait, dans notre tête, on enregistre ça de la même façon. Par exemple, il y a des couples qui se disputent énormément, parce que aussi leurs parents se disputaient énormément. Ils s'aimaient beaucoup, mais ils se disputaient beaucoup. Eh bien, il y a des couples qui vont reproduire exactement la même chose. Parce que pour eux, ça, c'est de l'amour. C'est comme ça que le cerveau l'a enregistré. Pour déconstruire ça, ben, y a le travail à faire, c'est comprendre qu'est-ce qui nous énerve, c'est quoi l'étincelle en fait qui va se passer. Pareil pour les enfants, hein, c'est quoi l'étincelle ? Qu'est-ce qui met le feu aux poudres ? Quand tu mets le doigt dessus, tu connectes à la douleur, et c'est comme ça que tu peux remettre un nouveau chemin plus positif. Voilà.
Ah, ça, on vient d'entendre un train, donc c'est prendre le bon train, ou changer de voie, changer de cabine.
C'est ça.
Se dire à tel moment, j'ai pris pendant tout un temps telle direction, mais je me rends compte que c'est plus la bonne. Ouais, toutes les relations humaines, c'est vraiment ça, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui peut me rendre encore plus heureux ? J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Après, voilà. Donc,
il y a une expression hein, qui dit faire tout le temps la même chose et avoir un résultat et espérer un résultat différent, c'est la définition de la folie. Je sais plus qui dit ça, je me demande si c'est pas Einstein ou un truc comme ça, je peux pas te dire qui.
Impression, c'est que c'est Einstein.
Ouais. Mais voilà, faire tout le temps la même chose et espérer un résultat différent, c'est la définition de la folie. Bah clairement, c'est ça. Et en fait, quand tu es dans la situation, tu te rends pas compte que tu fonctionnes systématiquement dans le même chemin. Parce que c'est des automatismes. C'est tellement ancré que tu n'as pas la conscience de ce qui est occupé à se produire. Et quand tu mets de la conscience et qu'il y a prise de conscience et que tu te dis « mais non, mais moi je ne veux pas vivre ça », c'est ça qui permet de changer.
Ça fait bientôt 45 minutes que nous sommes ensemble.
Ah, déjà ?
Donc à chaque fois, je me dis, l'épisode précédent aussi, c'est, je de plus en plus parler les gens, on voit plein de moments où on se laisse emballer par les sujets. Donc, voilà, donc l'épisode 43. Donc on va finir sur une des questions qui devient un peu plus récurrente. Donc la chanson qui te met en joie, s'il y en a une.
Alors, est-ce qu'il y en a une en particulier ? J'adore Despacito. parce que je suis une danseuse de salsa, bachata. J'adore les musiques latines. Ça me met le sourire, ça me remplit de bonne humeur. Et ça me donne envie de danser. D'ailleurs, je suis allée danser hier soir, je suis allée danser salsa bachata à Paris avec des inconnus. Je ne connaissais personne dans ce lieu et j'ai fait connaissance avec plein de gens. Enfin bref. Donc ouais, Despacito, j'adore. Aussi parce que c'est une chanson que j'ai écoutée avec une super amie que j'adore, que j'aime de tout mon cœur, qui s'appelle Charlotte, et qui a eu un cancer du sein à l'âge de, je crois, elle avait 25, 26, et qui s'en est sortie, et enfin, c'est ma petite guerrière à moi.
La résilience. Et donc oui, avant de nous quitter, on va donner quelques mots-clés. Donc parentalité, accompagnement pour la relation parent-enfant-ado.
Ouais.
Et on va aussi donner les coordonnées de ton site internet et les réseaux sociaux.
Ok, alors je suis sur Instagram, c'est le compte que je nourris le plus, je pense, de plein de tips et de bons conseils. Voilà, parce que là je ne peux pas faire autre chose que donner des conseils ou raconter ce qui se passe parfois en séance. Les prises de conscience, tout ça. Et là, c'est @edu.coeur. Enfin, je dis @, voilà. C'est edu.coeur sur Insta. Sur Facebook, c'est edu avec un accent sur le et, apostrophe coeur. Et puis après, il y a écrit relation ado, parent-enfant. Mais ça va changer prochainement. J'ai aussi un groupe que j'alimente assez peu, j'avoue. Sinon, j'alimente un peu plus mon profil perso, enfin mon profil pro plutôt, sur Facebook qui s'appelle, pour le moment, ça aussi ça va changer, Tamara Accompagnement Coaching Familial. Facebook ne veut pas que je change ce nom en fait. Chaque fois que je veux le changer, il me bloque. Et sinon sur LinkedIn, ah, il y a un avion qui passe. Et là, c'est un avion un tout petit. Sur LinkedIn, donc, c'est Tamara Mullemans, qui est mon nom de famille. Je pense que j'ai tout dit là. J'ai dit Facebook, Instagram, LinkedIn. Et mon site internet, c'est edu-coeur.com. Voilà.
Voilà, et donc on a vite abattu le record du plus long podcast. Et donc, un tout grand merci à toi pour cette participation.
Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Et j'avoue, je suis aussi bavarde.
Voilà, ça annonce donc une nouvelle information te concernant. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Tamara. Et donc, ouais, si vous voulez en savoir plus sur mes activités, n'hésitez pas à me contacter également. Et si vous voulez en entendre plus au niveau des podcasts, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de podcasts. Un tout grand merci pour votre écoute et à bientôt.
À bientôt, bonne journée.